Chapitre 3. Harry Seldon parcourut du regard la suite confortable qui avait été son bureau personnel à la Bibliothèque Galactique ces dernières années. Il en émanait, à l'instar du reste des lieux, une atmosphère de décrépitude, d'abandon, comme lorsqu'un objet reste trop longtemps à la même place. Et pourtant, Seldon savait qu'elle demeurerait toujours au même endroit, avec des reconstructions judicieuses, plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires encore. Comment avait-il abouti ici? Pour la centième fois, il évoqua le passé, fit courir ses antennes mentales au long des lignes de développement de son existence. C'était sans doute un trait inhérent à la vieillesse. Son passé était tellement riche que son esprit se détournait des ombres menaçantes du futur pour préférer la sécurité des événements antérieurs. Dans son cas, toutefois, un bouleversement avait eu lieu. Pendant 30 ans, la psychohistoire s'était développée d'une manière presque linéaire, un progrès d'une lenteur irritante mais rectiligne. Et puis, 6 ans plus tôt, il y avait eu ce brusque virage, à angle droit, totalement imprévu. Seldon revoyait avec précision la succession d'événements qui avaient rendu la chose possible. C'était à cause de Vanda, bien sûr. Vanda, sa petite fille. Harry ferma les yeux et, bien calé dans son fauteuil, récapitula les événements des 6 dernières années. À 12 ans, Vanda se sentait abandonnée. Sa mère, Manella, avait eu un autre enfant, une autre petite fille appelée Bélis, et le nouveau bébé l'accaparait totalement. Reich, son père, avait achevé son livre sur son secteur natal de Dal. L'ouvrage rencontrait un certain succès, octroyant à Reich une certaine célébrité. On l'invitait souvent à en parler, et il répondait avec empressement à ses sollicitations car il était passionné par son sujet, et, comme il l'expliquait à Harry avec un sourire, « Quand je parle de Dal, je n'ai pas besoin de cacher mon accent dalite, au contraire même, mon public serait déçu. » Le résultat, toutefois, était qu'il s'absentait fréquemment du domicile familial, et à son retour, c'était le bébé qu'il voulait voir. Quant à Dorse était parti. Et, pour Harry Seldon, cette blessure était toujours ouverte, toujours douloureuse. Il y avait réagi de manière bien malencontreuse, car c'était le rêve de Vanda qui avait déclenché la succession d'événements qui devait aboutir à la disparition de Dorse. Vanda n'y était pour rien. Seldon le savait pertinemment. Malgré tout, il se surprenait à l'éviter tant et si bien que lui aussi, il l'avait laissé tomber durant la crise provoquée par la naissance du nouveau bébé. En désespoir de cause, Vanda s'était rabattue sur la seule et unique personne qui semblait toujours ravie de la voir, la seule et unique personne sur qui elle pouvait toujours compter. C'était Hugo Amaril, le second d'Harry Seldon pour le développement de la psychohistoire, mais le premier dans son absolue dévotion à l'étude de celle-ci. Harry avait eu Dorse et Reich, alors que la psychohistoire était toute la vie de Hugo. Il n'avait ni femme ni enfant. Pourtant, chaque fois que Vanda s'approchait de lui, il reconnaissait l'enfant en elle et il éprouvait alors, de manière fugace, un sentiment de perte qu'il n'arrivait à apaiser qu'en lui manifestant de l'affection. Certes, il avait tendance à la traiter comme une adulte en miniature, mais Vanda semblait l'apprécier. Cela faisait 6 ans maintenant qu'elle s'était, pour la première fois, hasardée dans le bureau de Hugo. Hugo leva la tête pour la considérer avec le regard de chouette de ses yeux reconstitués, et comme toujours, il lui fallut 1 ou 2 secondes pour la reconnaître. « Eh bien, » dit-il enfin, « mais c'est ma chère amie Vanda. Pourquoi as-tu l'air si triste? Une jolie jeune fille comme toi ne devrait jamais se sentir triste. » À quoi Vanda, la lèvre inférieure frémissante, répondit « Personne ne m'aime. » « Oh, allons, Ce n'est pas vrai. Ils n'en ont que pour ce nouveau bébé. Ils ne s'occupent plus de moi. Je t'aime, moi, Wanda. Tu es bien le seul, oncle Hugo. » Elle était trop grande pour monter sur ses genoux comme elle le faisait jadis, mais elle vint nicher sa tête contre son épaule et pleura. Amaryl, totalement pris au dépourvu, ne put que la serrer contre lui en disant « Ne pleure pas, ne pleure pas. » Et dans un élan de sympathie, et parce que sa propre existence lui donnait si peu de motifs de se lamenter, il découvrit que des larmes coulaient également le long de ses joues. Alors, avec une énergie soudaine, il demanda « Wanda, veux-tu voir quelque chose de joli ?»«
Quoi ?»
renifla la petite. Amaryl ne connaissait qu'une seule chose dans l'univers qui fût jolie. « As-tu déjà vu le premier radiant ?»«
Non. Qu'est-ce que c'est ?»«
C'est l'appareil que nous utilisons, ton grand-père et moi, pour faire notre travail. Tu vois ? Il est juste ici. » Il désignait le cube noir sur son bureau et Wanda considéra l'objet, maussade.
« Il est pas joli. »«
Pas en ce moment, » reconnut Amaryl. « Mais regarde bien. Je vais l'allumer. » Ce qu'il fit. La pièce s'obscurcit pour s'emplir de points lumineux et d'éclairs de diverses couleurs. « Tu vois, à présent on peut l'agrandir pour que tous les points deviennent des symboles mathématiques. » Ce qu'ils firent. Ce fut comme si un brusque flot d'informations venait les submerger. Devant eux flottaient des signes de toutes sortes, des lettres, des chiffres, des flèches et d'autres formes que Wanda n'avait encore jamais vues. « N'est-ce pas joli ?»«
Si. » « Si !»
dit Wanda en contemplant avec méfiance les équations qui décrivaient, mais elle ne le savait pas, des futurs possibles.
« Quoique, j'aime pas cette partie. Je crois qu'elle est pas bonne. »
Elle indiquait une équation bariolée sur sa gauche.
« Pas bonne ? Pourquoi dis-tu qu'elle n'est pas bonne ?»
Amaryl fronçait les sourcils.
« Parce qu'elle est pas jolie. » « Moi, je l'aurais faite autrement. »
Amaryl se racla la gorge. « Eh bien, je vais essayer de l'arranger, » dit-il en scrutant l'équation litigieuse de son œil de chouette.
« Merci beaucoup, oncle Hugo, de m'avoir montré tes jolies lumières. Peut-être qu'un jour, je comprendrai ce qu'elles veulent dire. »«
J'espère que tu te sens mieux, » dit Amaryl.
« Un peu mieux, merci. »
Et, après le plus fugitif des sourires, elle quitta la pièce. Amaryl resta immobile, un rien chagriné. Il n'aimait pas qu'on critique la production du premier radiant, surtout par une gamine de 12 ans qui n'y connaissait rien. En fait, à cet instant précis, Amaryl était bien loin de se douter que la révolution psychohistorique venait de commencer.